Bonjour et bienvenue à cette session Windows 2012 R2 pour les administrateurs Linux concernant Hyper-V. Je m'appelle Cédric Gauthier, je suis formateur certifié au sein de la société Global Knowledge France. Au sein de cette société, je dispense des cours Microsoft sur Windows, de Windows 2000 à 2012 R2. Je suis également formateur sur la IAM System Center, ancienne génération, nouvelle génération. Je délivre les cours de cloud privé avec la IAM System Center 2012. Et je travaille également sur tout ce qui concerne la virtualisation de Microsoft, virtualisation de serveurs, virtualisation de présentation, virtualisation d'applications, virtualisation du poste de travail. Pour aller plus loin après cette présentation, vous aurez la possibilité éventuellement de suivre un cours sur la gestion d'un environnement Microsoft pour les administrateurs Linux. Nous avons déjà vu la partie licensing avec les différents modes de licence en fait qu'apporte Windows 2012, 2012 R2. Le type d'installation entre mode core et le mode graphique, la partie administrative avec le gestionnaire de serveur, comment réussir à automatiser avec les outils Microsoft intégrés dans Windows ou avec les outils de la IAM System Center. Une fois qu'on a choisi le type d'installation, comment va-t-on déployer notre système avec les différentes technologies Microsoft. J'ai déployé des serveurs, ces serveurs éventuellement ont besoin de stockage. Donc on a vu la partie de la gestion du stockage grâce aux espaces de stockage disponibles dans Windows 2012, 2012 R2. Et désormais, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est tout ce qui concerne la virtualisation de serveurs avec Windows 2012 R2. Cette virtualisation de serveur, ici, la virtualisation de serveur va fonctionner grâce au service Hyper-V. Hyper-V, le noyau de virtualisation, en fait, fourni dans Windows depuis Windows 2008, est un noyau de type hyperviseur. Ce noyau est présent, en fait, au sein de Windows. Il est installable. C'est-à-dire qu'on peut très bien installer un serveur Windows sans de l'Hyper-V, puis après, ajouter de l'Hyper-V. Sur une machine, une fois qu'on installe le rôle Hyper-V, la machine physique sur laquelle nous avons installé le rôle Hyper-V devient la partition parente. Toutes les machines virtuelles que nous allons être amenés à gérer deviennent des partitions enfants. L'avantage d'Hyper-V au niveau de la virtualisation, c'est que chez Microsoft, nous allons pouvoir, avec ce système, déployer des machines virtuelles aussi bien sur des OS 32 que 64 bits sur des systèmes Microsoft et non Microsoft. Le rôle Hyper-V, nous allons le trouver à quel niveau ? On le trouve sur Windows 2012 Data Center et Standard. On le trouve également désormais dans la version Essential. En Windows 2012 Essential, le rôle Hyper-V au niveau droit à virtualisation, c'est uniquement pour installer le serveur Essential. Il n'y a pas d'autre droit à virtualisation. On peut trouver également le serveur Hyper-V gratuit. C'est-à-dire que dans ce cas, en fait, il n'y a pas de licence pour faire de la virtualisation inclus. Donc, il faudra rajouter en fait des licences par-dessus. Et également, le rôle Hyper-V se trouve dans Windows 8.1, dans les versions Pro et Entreprise. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire de la virtualisation ici, même avec un poste client. Hyper-V en version Windows 8 va remplacer la technologie qui avant s'appelait Virtual PC. Notre hyperviseur ici, nous avons un hyperviseur de type 1, c'est-à-dire que cet hyperviseur va contrôler et préempter tous les accès mémoire et l'accès au CPU. La partition parente sur laquelle nous installons Hyper-V embarque le système Windows et cette partition parente va fournir l'accès à tous les périphériques de notre ordinateur. Également, cette partition parente va fournir les services de gestion d'Hyper-V et des machines virtuelles. Nos partitions enfants, ce sont nos OS invités que nous allons installer. Dans ces systèmes d'exploitation invités que nous allons installer, nous allons pouvoir y installer les services d'intégration. Les services d'intégration qui vont nous permettre d'optimiser la machine virtuelle et éventuellement d'utiliser tous les périphériques virtuels disponibles au sein de Hyper-V. Hyper-V 2012 R2. Au niveau des capacités, un serveur Hyper-V physique a la possibilité de gérer jusqu'à 320 processeurs logiques en fonction du nombre de cœurs et du cœur logique. Un serveur Hyper-V également aura la possibilité d'avoir jusqu'à 4 Tera de RAM. Nous sommes ici sur les capacités de notre serveur physique. Une machine virtuelle par contre, elle, ne pourra disposer que de 64 vCPU, de 64 processeurs virtuels, et ne pourra avoir au maximum que de 1 Tera de RAM. Au niveau de l'Hyper-V, nous avons également la possibilité dans Windows 2012 de mettre nos serveurs Hyper-V en cluster. Dans ce cas-là, notre cluster pourra avoir jusqu'à 64 nœuds. 64 nœuds et jusqu'à 8000 machines virtuelles par cluster au maximum. Donc on a une charge de travail qui peut être assez importante. Au niveau de l'Hyper-V 2012, par rapport à un Hyper-V 2008. Quelles vont être les nouveautés que l'on va rencontrer? Première nouveauté ici, le live migration. Live migration avec ou sans stockage partagé. C'est-à-dire que nous allons pouvoir en fait prendre une machine virtuelle d'un serveur, la déplacer vers un autre serveur Hyper-V, ceci juste en fait par une communication réseau. Nous pourrons également faire de la réplication de machine virtuelle. Je veux avoir un plan de reprise sur incident. Je veux faire en sorte qu'une machine plus ou moins importante puisse être reprise assez rapidement, sans être amené à faire de la sauvegarde, par exemple. Je vais pouvoir mettre en place un réplica. Nous allons pouvoir faire de la virtualisation de réseau en mettant en place la technologie qui s'appelle le NVGRE, Network Virtualization Generic Routing Encapsulation. Nous allons pouvoir gérer de la virtualisation de stockage, soit avec, au sein de Windows, les espaces de nom, les pools de stockage, soit en s'appuyant sur la technologie System Center Virtual Machine Manager, qui lui pourra gérer mes baies de stockage en direct. Au sein de l'Hyper-V, je crée des machines virtuelles. Ces machines virtuelles ont besoin d'accéder à mon réseau. Donc, nous avons un switch virtuel. Ce switch virtuel en Windows 2012 devient un switch virtuel extensible. C'est-à-dire que dans ce switch virtuel, je vais pouvoir rajouter de nouvelles fonctionnalités, comme un firewall, comme un antivirus, comme également, pourquoi pas, la connexion à un Cisco Nexus 1000V. Au sein de l'Hyper-V, il y a une meilleure gestion et des clients Microsoft, et surtout des clients tiers type Linux. Dans un Windows 2012, nous avions des évolutions par rapport à l'Hyper-V 2008, 2008 R2. Dans 2012 R2, l'Hyper-V apporte de nouvelles technologies. Première nouvelle technologie ici, l'exportation de machines virtuelles à chaud. J'ai une machine virtuelle en production, cette machine virtuelle, je vais la mettre sur un serveur de test, la positionner sur un serveur de test avant. Je devais arrêter la machine virtuelle, je devais exporter la machine virtuelle, puis après redémarrer la machine de production. Désormais, cette exportation se fait à chaud. Deuxième nouveauté, la réplication. En Windows 2012, la réplication pouvait passer d'un serveur Hyper-V vers un autre serveur Hyper-V. Si j'avais éventuellement un problème sur mon site primaire et sur mon site de réplica, je n'avais plus rien. Nous avons désormais la possibilité, depuis le site de réplica, d'étendre la réplication vers un troisième site. Mode de session étendue. Mode de session étendue ici, c'est quand je crée une machine virtuelle. Au sein de cette machine virtuelle, je ne pouvais pas utiliser les périphériques USB de la machine physique. Je n'avais pas la possibilité, sans passer par des copies réseau, de copier des fichiers d'une machine virtuelle vers une machine physique. Grâce au mode de session étendue, nous pourrons récupérer les périphériques USB de la machine physique au sein de la machine virtuelle et on pourra directement faire un copier-coller de fichiers. Exemple en fait des périphériques USB. Sur mon ordinateur physique, j'ai un lecteur de carte à puce. Ce lecteur de carte à puce, j'ai besoin de m'en servir pour X raisons au sein de la machine virtuelle. Grâce au mode de session étendue, je pourrais le faire. Nous créons des machines virtuelles. Ces machines virtuelles, comme des machines physiques, ont besoin d'être activées auprès de Microsoft. Avant, pour activer une machine virtuelle, je devais avoir sur cette machine virtuelle une connexion réseau, pour que cette machine virtuelle puisse directement attaquer soit un serveur KMS d'entreprise, soit puisse se connecter au serveur d'activation Microsoft. Autre solution éventuellement, j'avais la possibilité de téléphoner pour faire l'activation. Autre nouveauté ici intéressante, nous avons ce qu'on appelle de l'activation automatique des machines virtuelles. C'est-à-dire que désormais Microsoft nous fournit des numéros de série que l'on peut mettre en place sur des machines virtuelles 2012 R2 standard, 2012 R2 Data Center ou 2012 R2 Essential. Ce numéro de série, je vais le mettre au sein de la machine virtuelle et cette machine virtuelle s'activera automatiquement auprès du serveur Hyper-V physique. Sachant que pour réaliser l'opération, il me faut un serveur Hyper-V en 2012 R2 Data Center. Et il faut que lui-même soit activé. Dernière nouveauté ici que nous avons, au niveau des machines virtuelles, nous avons une nouvelle génération de machines virtuelles, les machines virtuelles de génération 2. Les machines virtuelles de génération 2 sont des machines virtuelles dans lesquelles nous n'aurons plus les mêmes matériels virtualisés qu'une machine virtuelle de génération 1. On le reverra juste après. Donc on a toute une série de nouveautés qui vont nous permettre, au fur et à mesure, en fait, d'optimiser notre infrastructure de virtualisation. Au sein des machines virtuelles, nous avons toute une série d'apports pour les technologies Microsoft, mais également toute une série d'apports pour le support des machines virtuelles Linux au sein de l'Hyper-V. Et en particulier ici, hein, nous avons des mises à jour, des services d'intégration pour les technologies Linux. Dans la dernière mise à jour en fait, que nous avons au niveau des services d'intégration, il y a par exemple la prise en charge au sein des machines virtuelles Linux de jusqu'à 64 vCPU. Nous avons une prise en charge également de la mémoire dynamique complète, comme si nous étions sur un poste de type Windows. Et nous avons également, pourquoi pas, du live backup, qui va s'appuyer sur les services VSS complets. Les services d'intégration Linux sont désormais intégrés directement dans les kernels Linux. C'est-à-dire que quand je crée une machine virtuelle Linux, je n'ai pas besoin, comme avant, d'être obligé de rajouter les services d'intégration pour optimiser la machine virtuelle. Ici, ils sont pré-intégrés. Éventuellement, j'aurai juste besoin de faire une mise à jour de ces services. Nous avons des serveurs Hyper-V avec toute une série de nouveautés. Mon serveur Hyper-V, quand je le mets en place, j'ai toute une série de paramétrages à faire post-installation. Des paramétrages comme, par exemple, l'emplacement des machines virtuelles, l'emplacement des disques durs, la prise en charge de différentes technologies, comme la démigration dynamique, comme le réplica. Mais une des prises en charge, une des configurations à réaliser, surtout, c'est la configuration au niveau du réseau. Je vais créer des machines virtuelles. Le but du jeu, c'est que mes machines virtuelles puissent exploiter mon réseau d'entreprise. Donc, c'est une première configuration que je vais être amené à gérer. Au sein de l'Hyper-V, tout seul, je vais être amené à gérer des switches virtuels. Ici, ce switch virtuel, je devrais le configurer serveur par serveur. Si je veux réussir à faire du switch virtuel de façon centralisée, comme le switch distribué que l'on peut rencontrer chez VMware, dans ce cas-là, je devrais passer par l'outil System Center Virtual Machine Manager et je pourrais générer ce qu'on appelle des switches logiques. Au niveau de mes switches, qu'ils soient logiques, gérés par VMM, ou switch virtuel standard, géré par Hyper-V. De quel type de switch logique va-t-on bénéficier? J'ai un serveur avec une carte réseau, des machines virtuelles, sur lesquelles je veux des cartes réseau. Nous avons au sein d'Hyper-V trois types de switch dans notre infrastructure. Un premier switch ici que nous avons, qui s'appelle le switch privé. Le switch privé, c'est un switch logique qui va permettre aux machines virtuelles de communiquer entre elles sans avoir une communication possible avec le serveur parent. Nous avons en deuxième solution un switch interne. Le switch interne est un switch qui va permettre aux machines virtuelles de toujours dialoguer entre elles, mais également de dialoguer avec le serveur physique, ici. Par contre, dans ce cas-là, les machines n'ont aucun accès à l'extérieur. Si je veux éventuellement que les machines virtuelles puissent accéder à l'extérieur, je vais mettre en place sur mon serveur physique la technologie de NAT. Je vais faire de la translation d'adresse pour que les machines virtuelles puissent sortir. Troisième solution que nous avons ici, je veux que mes machines virtuelles puissent directement accéder à Internet, accéder à mon réseau d'entreprise, sans passer par des technologies de routage que je mettrai en place éventuellement sur mon serveur physique. Dans ce cas-là, la troisième solution, c'est la mise en place d'un switch externe. Soit un switch externe que je vais partager avec le serveur physique, c'est-à-dire que sur le serveur physique, mon serveur physique pourra également exploiter ce switch logique pour travailler, soit un switch externe que je ne partagerai pas. Et dans ce cas-là, il me faudra sur mon serveur plusieurs cartes réseau. Une carte réseau physique pour associer un switch externe dédié machine virtuelle. Une deuxième carte réseau qui sera dédiée pour l'administration de mon serveur Hyper-V. Ce type de switch ici est gérable au fur et à mesure du temps, mais dès que je mets en place mon infrastructure, il est important de faire cette bonne configuration. Comment peut-on créer des switches virtuels? Pour réussir à créer des switches virtuels, ici, sur un de mes serveurs Hyper-V, donc nous avons deux serveurs Hyper-V à disposition, sur mon serveur Hyper-V, je veux créer un switch virtuel. En faisant un bouton droit ici, sur mon serveur, je vais pouvoir gérer mes commutateurs virtuels. Ces commutateurs virtuels ici, j'ai deux serveurs à disposition. Je dois faire la configuration depuis ma console Hyper-V sur mes deux serveurs. Quand je mets en place des switches virtuels avec Hyper-V, il est très important que tous les switches virtuels portent strictement le même nom sur les différents serveurs Hyper-V. L'intérêt ici, c'est quand je serai amené à faire un déplacement de machine virtuelle, par exemple, je veux pouvoir automatiser un déplacement de machine virtuelle d'un serveur vers l'autre. Il est important que les switches soient directement disponibles d'un côté vers l'autre. Alors après coup, on peut très bien avoir d'un côté un switch qui s'appelle externe, de l'autre côté également qui s'appelle externe, sachant que en type de switch, ce n'est pas réellement le même type de commutateur derrière. Si je veux créer un switch sur mon infrastructure, je suis sur mon serveur, je vais créer un nouveau commutateur virtuel. Nous avons les trois solutions externe, interne, privé. On peut faire l'évolution. On peut passer de externe à interne, de interne à privé, de privé à externe. Si je veux créer un switch externe, quand je crée le commutateur, le système va me proposer les cartes réseau disponibles sur mon serveur. Alors, au niveau du switch externe avec de l'Hyper-V depuis Windows 2012, nous pouvons nous appuyer soit sur des cartes réseau filaires, soit éventuellement sur des cartes réseau Wi-Fi. Ce qui permet éventuellement, sur un environnement de test, de proposer l'accès à Internet ou l'accès à mon réseau d'entreprise à mes machines virtuelles. Je veux créer ici sur une carte de bouclage. Nous avons ici, quand je crée mon switch externe, l'autorisation du système d'exploitation à partager. C'est-à-dire que dans ce cas-là, le système va me créer une nouvelle carte réseau au sein de mon serveur Hyper-V physique pour que moi, serveur Hyper-V, je puisse exploiter le switch externe. Si je décoche cette case, j'ai intérêt à avoir sur mon serveur Hyper-V deux cartes réseau physiques. Une, encore une fois, pour les machines virtuelles et une pour moi au niveau administration. Je vais décocher la case appliquer. Il me dit que je vais perdre accès à Internet, l'accès réseau, ce n'est pas un problème ici. OK. Pour aller voir ce qui se passe dans mes connexions réseau, je vais trouver ici ma fameuse carte de bouclage. Et sur cette carte de bouclage, puisque je viens d'activer ici un switch externe, je me retrouve avec une carte réseau qui n'a plus aucun protocole d'activé. Le seul protocole d'activé sur cette carte réseau que nous allons avoir, c'est le commutateur virtuel extensible. Cette carte réseau ici, ce commutateur, permet aux machines virtuelles de directement, éventuellement, accéder à mon réseau d'entreprise. Moi, par contre, si je n'avais qu'une seule carte réseau, bah, ma machine, je ne peux l'administrer qu'en étant physiquement devant. Je n'ai plus d'accès à distance. Si je veux pouvoir administrer à distance, si je reviens sur mon serveur Hyper-V ici, bah, je peux ici, sur mon commutateur virtuel, cocher cette case. Je vais autoriser le système d'exploitation à partager cette carte réseau. Ce que je vais faire ici, je vais également renommer mon switch externe. Appliquer. Cette fois-ci, au sein de mon système, j'ai toujours ma carte de bouclage, mais je vois apparaître ici une carte réseau qui m'est générée pour que mon serveur puisse accéder à cette carte de bouclage. Sachant qu'ici, hein, il me crée cette carte. Il me faut bien entendu derrière un serveur DHCP où je vais mettre une adresse IP de façon statique pour que la machine puisse dialoguer avec les autres. Une fois que j'ai créé mes cartes réseau, je vais pouvoir, après coup, au sein de mes machines virtuelles, faire des évolutions. Je vais pouvoir gérer tout mon composant. Cette carte de bouclage ici, je vais la supprimer. Je n'en ai plus besoin. J'ai différents serveurs avec différents types de cartes réseau. Ce qu'il est important lorsque je mets en place des switches virtuels, ici, c'est le nom du switch virtuel. Physiquement, les cartes réseau qui vont être exploitées derrière, pour nous, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment le nom qui est important, en particulier pour le live migration et également pour déployer rapidement des machines virtuelles. Justement, j'ai créé mes switches virtuels, j'ai paramétré mes serveurs. J'aimerais désormais, sur mon infrastructure Hyper-V, créer des machines virtuelles. Machines virtuelles avec Windows 2012 R2, nous avons désormais deux types de machines virtuelles. Les machines virtuelles de génération 1. Machines virtuelles de génération 1, nous avons des périphériques virtualisés, comme au niveau de la génération 2, bien entendu. Au niveau de la génération 1, seuls les périphériques supportés par Hyper-V peuvent être utilisés. C'est-à-dire qu'ici, je ne vais pas pouvoir, au sein de la machine virtuelle, par exemple, bénéficier d'autres technologies inconnues dans l'Hyper-V. Dans une machine virtuelle de génération 1, nous aurons différents types de périphériques virtualisés qui vont être utilisés. Nous aurons les périphériques dits émulés. Un périphérique émulé est un périphérique qui est disponible au démarrage de la machine. Exemple de périphérique émulé, nous avons une carte réseau émulée. Je veux déployer une machine virtuelle en m'appuyant sur un service de déploiement Windows. Cette machine va booter sur rien, va essayer de récupérer une adresse IP. Il me faudra une carte réseau émulée. Nous avons les cartes réseau synthétiques, les périphériques synthétiques. Un périphérique synthétique, c'est un périphérique qui est disponible si au sein du système, nous avons les services d'intégration. Les services d'intégration sont préchargés dans les environnements Linux, dans certains environnements Linux, sont préchargés depuis Vista SP2 chez Microsoft. Troisième type de périphérique que nous avons, un périphérique de type SRIOV. le SRIOV, c'est faire en sorte en fait de décharger l'accès à la carte réseau de la machine virtuelle. C'est-à-dire que la machine virtuelle, quand elle accédera à la carte réseau, elle ne passera plus par le serveur Hyper-V physique, elle attaquera directement la carte réseau. Dans le cas du SRIOV, nous devons avoir une carte réseau synthétique au sein de la machine virtuelle et nous devons avoir une carte réseau physique qui supporte le SRIOV. Cette génération 1, ce sont les machines virtuelles que nous rencontrons jusqu'à Windows 2012. Avant, c'était la seule possibilité. On créait une machine virtuelle, était en génération 1, même si derrière, rien n'indiquait. Si je crée une machine virtuelle de génération 1, si je prends un serveur Hyper-V avec des machines virtuelles de génération 1, il ne me sera pas possible directement de passer de génération 1 à génération 2. Je devrais passer par une réinstallation, une recréation de machine virtuelle. Que va-t-on trouver au sein d'une machine virtuelle de génération 2 ? Dans une machine virtuelle de génération 2, les périphériques émulés n'existent plus. Périphériques émulés, deux grands types de périphériques émulés que nous allons avoir. Carte réseau émulée, carte réseau qui fonctionnait à 100 mégabits. Et deuxième type de périphérique, les disques émulés IDE. Désormais, dans une machine virtuelle de génération 2, nous n'allons avoir que des disques de type SCSI et nous n'aurons également que des cartes réseau de type synthétique. Dans une machine virtuelle de génération 2, autre évolution, désormais nous passons sur un firmware UEFI à la place d'un BIOS. C'est-à-dire que dans ce cas, nous allons avoir un boot sécurisé. Nous allons avoir un démarrage possible depuis le contrôleur SCSI. Et également, surtout aussi, quand je ferai une machine virtuelle de génération 2 que je veux déployer grâce au service d'installation réseau, je pourrai démarrer la machine depuis une carte réseau standard, depuis une carte réseau synthétique. Une machine virtuelle de génération 2 me permet d'avoir un démarrage plus rapide, une installation plus rapide de la machine virtuelle, donc des temps de réaction complets plus rapides. Ici, je peux avoir des serveurs Hyper-V équipés de machines virtuelles de génération 1 et de génération 2 en simultané. Je n'ai pas l'obligation de n'avoir que des générations 2. Par contre, une machine virtuelle de génération 2 ne sera pas déplaçable sur un serveur Hyper-V 2012 qui ne gère pas cette génération de machines virtuelles. Pour mettre en place une machine virtuelle de génération 2, on ne peut pas mettre en place cette machine dans n'importe quel OS, avec n'importe quel OS. Les machines virtuelles de génération 2 peuvent être que des machines virtuelles en Windows 2012, 2012 R2 ou en Windows 8, 8.1, 64 bits. Donc tout ce qui est antérieur devra passer par une machine virtuelle de génération 1. J'ai des machines virtuelles, comment créer ces différentes machines virtuelles de génération 1, de génération 2 ? Comment va-t-on pouvoir créer une machine virtuelle Linux ? Ici. Donc je reviens sur mon serveur Hyper-V. Ici au niveau de mon serveur Hyper-V, je vais directement sur mon serveur créer une nouvelle machine virtuelle. Cette machine virtuelle ici, je vais aller lui changer son emplacement tout de suite. Hop, cette machine virtuelle s'appellera MVAG1. Donc je crée une machine virtuelle en fait de type génération 1, suivant, une génération 1, suivant. Mémoire de démarrage, je vais donner 2 Go de RAM. Suivant. Je vais la connecter à mon réseau externe MVA. Ici, j'ai un disque dur qui est déjà existant. Je vais utiliser un disque dur virtuel existant. Ce disque dur que je vais utiliser ici est un disque dur qui a été généré grâce à la commande convert-Windows Image. Donc ici, c'est tout simplement l'équivalent du DVD Windows 2012 R2 Update 1 qui a été généré en VHDX. J'ouvre. Suivant. Terminé. J'ai ma machine virtuelle de génération 1. Je veux générer une machine virtuelle de génération 2 et après nous comparons les différents équipements. Je crée un deuxième ordinateur virtuel que je vais appeler MVA G2 dans ce cas. Et cette machine virtuelle, même chose, je vais la mettre dans le dossier Microsoft. Génération 2, je vais lui mettre la même quantité de RAM, suivant, toujours connecté à mon réseau externe, suivant, en exploitant ici un disque dur, également déjà généré. Alors celui-ci a été généré également grâce à la commande convert-Windows Image, mais par contre cette fois-ci, j'ai été obligé d'utiliser en fait un script ou une ligne de commande pour le faire. L'interface graphique ne sait pas le faire. J'ai mes deux machines virtuelles. Quand je regarde les paramètres de ces deux machines virtuelles, hop. Si on regarde ici en fait les différents équipements, j'ai toujours mon matériel. Je passe d'un côté d'un BIOS en génération 1 à un micro-programme en génération 2. J'ai toujours la RAM. D'un côté, je suis en IDE, de l'autre côté, je suis en SSI. Au niveau matériel, je vois que je ne peux racheter que de SSI, une carte réseau, un adaptateur FreeBird Channel. De l'autre côté, je peux ajouter une carte réseau héritée, je peux acheter des périphériques IDE. Donc on voit ici que nous avons vraiment une différence de fonctionnement entre les deux machines virtuelles. Je vais ces machines virtuelles les démarrer. Toutes les deux. Donc quand je vais démarrer ces machines virtuelles, donc on voit au niveau du démarrage, en fait ici, une différence de démarrage avec un élément Hyper-V. De l'autre côté, on démarre directement en fait à l'intérieur. Donc on a vraiment ici le démarrage, hein. Donc je vais les laisser tourner et on va voir en fait qu'on a des exécutions qui sont plus rapides en génération 2 qu'en génération 1. Si je veux créer une machine virtuelle Linux au sein de mon infrastructure, bah ici, la création de machine virtuelle Linux, c'est tout simplement le même principe. Je vais dire Linux, le même principe qu'une machine virtuelle normale. On va la mettre ici, suivant. Je vais mettre une machine virtuelle Linux de génération 1, puisque la génération 2 n'est pas supportée. Je vais lui mettre 2 Go de RAM, et également connecté à mon réseau externe, suivant. Je n'ai pas créé de disque dans ce cas-là, donc je vais le laisser le faire. Suivant. Ici, par contre, au niveau de la machine virtuelle Linux, je n'ai pas de disque dur pour l'instant, donc je vais demander à utiliser un fichier ISO que j'ai en local. Donc ici, je vais installer une version Ubuntu. Suivant, terminé. Ici, au sein de la machine virtuelle Linux, hein, j'ai vraiment le même support qu'une machine virtuelle Microsoft. Sachant qu'ici, cette machine virtuelle Linux, je vais également la démarrer. Donc là, les deux autres sont en train de démarrer. Directement ici, hein, j'ai mon Ubuntu qui fonctionne, sachant que mon Ubuntu fonctionne avec tous les composants que j'ai en interne. Voilà. Ici, je suis sur ma machine virtuelle Linux. J'ai rien rajouté et directement, on voit que je peux passer d'un environnement à l'autre. Bah, tout ça, en général, était dû grâce aux services d'intégration. On voit qu'ils sont préchargés. Donc ici, je vais laisser pour l'instant tourner cette machine. Donc ici, nous avons 3 machines virtuelles. Ces 3 machines virtuelles sont en phase finale d'installation. Donc là, j'ai un peu de temps de réaction. En fait, je travaille sur le même disque dur, donc c'est normal. Pendant que ces machines virtuelles en fait s'installent, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. J'ai mes machines virtuelles. Ces machines virtuelles sont créées. Maintenant, j'ai plus qu'à travailler. Ces machines virtuelles sont toutes générées à l'heure actuelle sur mon serveur physique, ici. Bah, éventuellement, ces machines virtuelles, ce qui va pouvoir être intéressant, c'est après coup de les déplacer. Avant de les déplacer, ici, une des nouveautés en fait de 2012 R2 qui nous permet de travailler, c'est ce qu'on appelle le mode de session étendu. Le mode de session étendu, c'est quoi en fait? C'est possibilité au sein d'une machine virtuelle, ici, de bénéficier des périphériques que nous trouvons au sein de la machine physique. C'est également directement pouvoir faire un copier-coller entre la machine physique et la machine virtuelle. Le mode de session étendu, ici, sera activé pendant la connexion à la machine virtuelle. Donc le système me demandera, est-ce que tu veux activer le mode de session étendu ou pas? Le mode de session étendu n'est utilisable que dans les environnements 2012 R2 ou Windows 8.1. En fonction des environnements que nous avons entre les mains, ici, Par exemple, si je mets un Windows 8.1, je devrais, pour utiliser le mode de session étendue, activer le bureau à distance au sein de la machine virtuelle. Parce que le mode de session étendue, en fait, s'appuie tout simplement sur le protocole RDP. Donc, grâce à lui, nous allons pouvoir attaquer la machine virtuelle et dans la machine virtuelle, faire de la copie de fichiers. Comment travailler avec le mode de session étendue ? Ici, je vais aller utiliser mon contrôleur domaine qui est ici. Sur ce contrôleur domaine, en fait, ici, quand je fais bouton droit, je vois apparaître modifier les paramètres de la session. Modifier les paramètres de la session, c'est parce que j'ai demandé à faire des enregistrements de paramètres. Donc, je vais décocher l'enregistrement de paramètres. Je vais refermer cette machine. Donc ici, je suis sur ma machine virtuelle. Au sein de ma machine virtuelle, quand je me connecte, hop, sur cette machine virtuelle ici que nous avons entre les mains, je veux par exemple récupérer un fichier qui se trouverait sur mon bureau. Si j'arrive à y accéder, je vais prendre ce fichier. Ce fichier, je vais le mettre au sein de la machine virtuelle. Je copie. Au sein de la machine virtuelle, en fait, mon DC. Je vais directement pouvoir dessus faire un bouton droit, coller. Ceci, je vais pouvoir faire mon copier-coller sans avoir, en fait, obligatoirement, de connexion réseau entre les deux machines. Je vais pouvoir également, ici, au sein de la machine virtuelle, pouvoir gérer des redirections d'éléments. Je suis en mode de session étendue ici. Si je referme la console et je reviens à modifier les paramètres de session, je vais pouvoir dire ici, au sein de ma machine virtuelle, quelles sont les ressources locales de mon serveur Hyper-V que je vais rendre disponibles dans ma machine virtuelle. Ici, par exemple, il me dit je rends disponible les imprimantes, je rends disponible le presse-papier et je peux demander à rendre disponible d'autres périphériques. Donc, je vois les disques directement disponible de la redirection et je vois les périphériques qui vont être dispo. N'ayant pas connecté de périphérique USB sur mon portable, ici, pour l'instant, je n'ai rien de visible. Si je branchais en fait un lecteur de carte de la carte à puce, je pourrais dire ce lecteur de carte à puce va être exploitable au sein de la machine virtuelle après coup. Donc nous avons le mode de session étendu. Ce mode de session étendu ici, quand je m'en sers à chaque fois, je dois me reconnecter. Si je me reconnecte, je suis en mode de session étendue. Je veux repasser en mode de session simple, mode de session standard. Nous avons ici le bouton session simple. La différence entre les deux, c'est qu'ici, je ne vais pas pouvoir recopier mon fichier. C'est-à-dire que si je fais bouton droit, j'ai pu le coller. Si ici, je demande à copier ce fichier et que je demande à le recoller sur mon serveur physique. Alors là, j'ai le collé en fait qui était de tout à l'heure, donc ma démo n'est pas la meilleure ici. Je vais reprendre mon contrôleur domaine. Je vais dire par exemple, tiens, je veux copier ce fichier. Je copie. Sur mon serveur physique, quand je colle, on voit que je recolle toujours le fichier original. Je ne colle pas le fichier qui était au sein de la machine virtuelle. Le mode de session étendu est activé par défaut sur un serveur Hyper-V Windows 8, Windows 8.1. Le mode de session étendu est à activer sur un serveur. Sur le serveur, l'activation du mode de session étendu, dans les paramètres Hyper-V, nous avons ici les stratégies du mode de session étendu. Et dans ces stratégies, nous allons autoriser le mode de session étendu. Par défaut, ce n'est pas coché, donc le mode de session n'est pas faisable. J'ai des machines virtuelles sur lesquelles j'ai mis en place le mode de session étendu. Ces machines virtuelles, je les ai mis en place sur un serveur avec le stockage local. Désormais, éventuellement, je me suis acheté une baie de stockage. J'ai acheté un deuxième serveur pour mettre en place de l'Hyper-V. J'aimerais sur mon serveur mettre en place toute une série de technologies qui vont me permettre, par exemple, de faire de la migration de stockage. Migration de stockage, machine stockée localement. Je veux l'envoyer sur la baie de stockage pour après coup bénéficier du clustering, par exemple. Je veux également non plus migrer le stockage, mais migrer la machine virtuelle. Encore une fois, j'ai un serveur physique autonome au départ. les machines virtuelles stockées, hébergées localement. J'achète une baie de stockage, je mets tous les fichiers sur la baie de stockage. J'achète un deuxième serveur Hyper-V. Je veux dispatcher les machines virtuelles d'un serveur à l'autre. Donc ici, nous avons la migration de machines virtuelles possible, ce que l'on verra juste après. Autre possibilité au niveau de les migrations, Quick Migration. Quick Migration, c'est le type de migration qui était inclus dans de l'Hyper-V 2008. Le Quick Migration impose un cluster. Live Migration, qui me permettra de déplacer mes machines virtuelles. Le Live Migration, en fait, ici, c'est un Live Migration dans Windows 2012 qui n'impose pas du clustering, qui peut se faire juste avec une connectivité réseau. Ici, au niveau du Live Migration, il y a eu une amélioration des performances entre un Live Migration 2012 vers 2012 R2, en particulier. Au niveau de mes déplacements de machines virtuelles, au niveau de ma gestion de machines virtuelles, j'ai la gestion en fait de mon réplica Hyper-V. Mon réplica Hyper-V, c'est faire en sorte qu'une machine virtuelle de mon serveur puisse être exploitable, puisse être récupérable plutôt, sur un deuxième serveur Hyper-V. Donc l'Hyper-V en fait réplica, ici c'est une réplication qui est asynchrone. Dans de l'Hyper-V 2012 R2, nous pourrons configurer la fréquence de réplication et nous pourrons également étendre la réplication, ce que l'on verra après. Dernier ici, élément au niveau de déplacement, ben, tout simplement, j'ai une machine virtuelle sur un serveur, je veux exporter la machine virtuelle sur un autre serveur. Également, je veux exporter, mais ce qui peut être intéressant, c'est d'importer une machine virtuelle. On peut, dans Windows 2012 R2, nous pouvons importer une machine virtuelle, même si celle-ci n'a pas été exportée au préalable. Il suffit de copier les fichiers. La migration de stockage. Première migration possible. Comment fonctionne-t-elle? Nous avons un serveur Hyper-V avec la machine virtuelle, avec l'accès au disque dur et le fameux fichier VHD. Je décide de migrer le stockage. Donc pour l'instant, nous avons une lecture-écriture dans le disque source. Je décide de migrer le stockage. Le système va copier le disque dur dans la destination, dans une première étape. Copier le disque dur en destination, puis après coup, j'ai une migration de stockage qui se fait en temps réel. Donc le système, ce qu'il va faire, toutes les écritures qui vont être faites vont être dupliquées sur le serveur source et sur le serveur de destination. Puis après coup, le système va valider que le disque dur de destination a bien été synchronisé correctement avec le disque dur source. Donc désormais, le système fait en sorte que la machine virtuelle n'écrive que sur disque dur copié. Pour terminer ici, avec une suppression du disque virtuel original. Cette migration de stockage fonctionne sans interruption de service. La machine virtuelle est toujours accessible, même si je migre mon stockage. Deuxième migration ici, qui va avec, puisque qu'on fasse une migration de stockage ou un live migration, au sein du serveur, ce sont les mêmes options. Live migration sans cluster, c'est également ce qu'on appelle une live migration sans partage. Ici, dans un live migration sans cluster, les données de la machine virtuelle peuvent être stockées en local ou sur une baie de stockage. La différence ici, c'est que si je fais un live migration, alors que les données sont stockées en local, je passe d'un serveur Hyper-V à un deuxième serveur Hyper-V, bah ici, non seulement j'aurai un déplacement de la machine virtuelle, mais en plus, j'aurai un déplacement des disques sur mon deuxième serveur. Sachant que si par contre, les données sont déjà sur un serveur de fichiers, sont déjà sur une baie de stockage, je vais laisser les fichiers de la machine virtuelle au sein de la baie de stockage. Donc on aura une migration soit que des fichiers, soit migration des fichiers et de la machine virtuelle en simultané. Ici. La vitesse de migration au niveau du live migration dépend de la RAM de la machine, dépend des modifications que vous apportez au sein des machines virtuelles, dépend également tout simplement de l'emplacement où se trouvent les fichiers de la machine virtuelle et dépend de la bande passante entre mes deux serveurs. Si je fais un live migration, ça fonctionne comment? Live migration ici, on a un déplacement de la mémoire qui se fait d'un serveur à l'autre au fur et à mesure du temps, ici. Première étape, on a la configuration de la machine virtuelle en fait, qui est envoyée sur serveur Hyper-V destination. Le système envoie les pages mémoire qui ne sont pas modifiées. Il les envoie toutes au fur et à mesure. Dès que les pages mémoire modifiées en fait, sur le serveur source sont conservées, puis sont transférées à la fin. Et une fois que tout est transféré, aussi bien les pages mémoire non modifiées que celles modifiées, le système va envoyer au vSwitch, au switch réseau, une nouvelle adresse MAC. C'est-à-dire que quand je vais faire un live migration sans cluster, nous aurons un mini arrêt de service qui est en général de l'ordre d'un ping. Comment réussir à mettre ces deux composants en place? Et aussi bien la migration de stockage que le live migration. Pour réussir à mettre ces composants en place, première étape, il faut autoriser les différents types de migration. Si je veux faire une migration de stockage, au sein de mon paramètre Hyper-V ici, nous avons un élément de migration de stockage. Combien de migrations de stockage autorise-t-on en simultané? Par défaut, nous sommes à deux. Je vais prendre une de mes machines virtuelles. Je vais prendre par exemple une que j'ai créée tout à l'heure, type MVHR. Donc nous avons cette machine virtuelle ici. Je suis dans la phase finale d'installation. Maintenant, je vais lancer la phase finale d'installation. Je ne vais pas y mettre de clé de produit. J'accepte. On va mettre un mot de passe. Hop. Donc j'ai la machine virtuelle qui est générée. Cette machine virtuelle ici, nous avons les fichiers stockés à un endroit particulier. J'aimerais déplacer mon stockage. Le déplacer de la lettre W à une deuxième lettre. De la déplacer de la lettre W à un deuxième, à une baie de stockage. Ici, pour réussir à faire ça, il me suffit de faire un bouton droit, déplacer. Déplacer. Quel type de déplacement? Soit je fais un déplacement d'ordinateur, et dans ce cas-là, je suis sur un live migration, soit je fais un déplacement de stockage de l'ordinateur virtuel. Suivant. Que va-t-on déplacer? Toutes les données au même emplacement. Je vais choisir dans des emplacements spécifiques ce que je vais faire, l'emplacement spécifique de chacun des fichiers, où je ne déplace que les disques durs virtuels. C'est-à-dire que je laisse en place les fichiers de la machine virtuelle sur mon serveur Hyper-V et je déplace le VHDX sur une baie de stockage. Je vais demander à tout déplacer. Suivant. Où vais-je déplacer? Ici, je vais faire un déplacement sur W. Je vais prendre le dossier temporaire. Et dans ce dossier temporaire, ici, je vais dire « Déplace ». Sélectionner. Suivant. Je déplace ma machine virtuelle. Le déplacement est en train de se faire. J'ai toujours accès à ma machine virtuelle. J'ai dû fermer la console. Hop. J'ai toujours accès au sein de cette machine virtuelle. Je peux m'y connecter sans aucun souci. Et je vois ici, j'ai mon déplacement qui est en train de se réaliser. Donc j'ai ma machine virtuelle qui est en train de se déplacer, ainsi je change le stockage sur mon serveur. Donc ici je ne fais qu'une migration de stockage. Moi j'aimerais cette fois-ci passer la machine virtuelle par exemple MVAG2 de mon serveur 2012 R2 ici à mon deuxième serveur Hyper-V. Pour faire de la migration du live migration, encore faut-il qu'il soit autorisé sur mes serveurs, donc dans ce cas sur les deux serveurs, dans le serveur dans les paramètres Hyper-V. Je vais venir sur la migration dynamique. Migration dynamique. Combien de migrations dynamiques va-t-on autoriser en simultané? Quel sera le réseau utilisé? Donc ici, j'utilise tous les réseaux. Après coup, on peut avoir un réseau dédié pour la migration dynamique. Et surtout, quand on fait de la migration dynamique, nous aurons besoin d'authentification. Deux types d'authentification. Ce que nous appelons le CRED SSP. Dans le cas de la migration dynamique avec CRED SSP, il faut que je sois physiquement sur le serveur qui a la machine virtuelle pour réussir à faire un live migration. Je ne peux pas, à distance, récupérer une machine virtuelle de mon deuxième serveur. Deuxième solution, avec de l'Active Directory, je peux demander à utiliser Kerberos, et dans ce cas-là, je ferai au sein de l'Active Directory de la délégation contrainte. Donc, la mise en place est faite des deux côtés. Je viens sur la machine virtuelle MVAG2, je veux la déplacer, je peux faire un bouton droit déplacer, suivant. Je vais non pas déplacer le stockage, mais déplacer l'ordinateur virtuel sur mon deuxième serveur. Je vais déplacer les données de l'ordinateur virtuel, la configuration de machine virtuelle à un seul emplacement. Je ne peux déplacer que les données ou déplacer que l'ordinateur virtuel. La dernière solution, la machine virtuelle que j'héberge est sur une baie de stockage. Je veux uniquement changer le serveur qui gère. Donc je peux prendre la dernière solution. Si je déplace l'ordinateur virtuel ici, suivant, je vais déplacer ça sur mon autre serveur. Et ici, je vais prendre le dossier déplacement. Donc je vais prendre directement à la racine, c'est pas très grave. Suivant. Terminé. Ma machine virtuelle est en train de se déplacer, ici. Alors, petit problème. J'ai fait un déplacement de machine virtuelle. J'ai fait un déplacement de machine virtuelle, démarré, live migration. Bah, le petit souci, c'est qu'ici, j'ai deux serveurs qui ont des processeurs différents. Deux serveurs qui ont des processeurs différents. Pour faire un live migration, il faut que je dise au sein de la machine virtuelle, attention, tu vas rencontrer la situation où tes serveurs n'ont pas la même configuration processeur. Donc, pour réussir à faire ça, ici, cette machine virtuelle G2, je vais l'éteindre. Même si elle n'était pas terminée, c'est pas grave. Hein. Je vais faire un arrêt non propre. Je vais au sein de la machine virtuelle dans les paramètres. Au sein du processeur, je vais venir gérer la compatibilité. Compatibilité avec la migration vers un ordinateur physique ayant un processeur différent. Juste en cochant cette case, désormais, je vais redémarrer ma machine virtuelle. Voilà. Et je peux la redéplacer. Je redéplace complètement comme j'avais préparé juste avant mon serveur. Je déplace toutes les données sur FVM, sélectionné, suivant, terminé. Le déplacement a lieu cette fois-ci. Si on regarde juste la charge réseau en fait de notre serveur, dans la partie performance, je suis sur celle-ci. Je vois qu'ici, en émission 1, j'ai du transfert d'informations. Je vois qu'il y a le composant. Le live migration s'appuie en fait au niveau destination sur le port 6600. C'est-à-dire que si je veux faire un live migration, il faut penser à ce que les ports soient ouverts. Hein. Sinon, on risque d'avoir un petit souci. Donc, j'ai ma migration de stockage, ici, qui n'est pas encore terminée. Alors, c'est en fonction de mes disques durs, bien entendu. Et j'ai la migration de machine virtuelle en passant par le réseau. Sachant que la migration ici de machine virtuelle devrait être plus rapide quasiment que mon déplacement de stockage. Mes machines virtuelles, donc ça veut dire que dans l'Hyper-V, mes machines virtuelles, je peux les créer sur un serveur. Puis après coup, m'amuser éventuellement à dispatcher un peu n'importe où au sein de mon entreprise, au sein de mon infrastructure. Grâce aux technologies de migration de stockage et de live migration que nous avons en interne. Autre possibilité au niveau des machines virtuelles dans l'Hyper-V 2012 R2, ici. J'ai une machine virtuelle qui est plus ou moins importante au niveau de ma production. Cette machine virtuelle, je veux éventuellement, si mon serveur Hyper-V physique tombe en panne, j'ai un problème au niveau de ma salle serveur éventuellement, je voudrais pouvoir remonter cette machine virtuelle très rapidement. Une solution que nous avons ici, disponible, c'est la mise en place de la réplication Hyper-V. Réplication Hyper-V qui n'est pas l'équivalent de la haute disponibilité. La haute disponibilité, c'est du clustering. Le réplica Hyper-V, c'est faire en sorte qu'une machine virtuelle sur un serveur soit répliquée à intervalles réguliers vers un autre serveur, ici. Le réplica Hyper-V est un composant du rôle Hyper-V. C'est-à-dire qu'il n'y a besoin de rien installer. Vous installez le rôle Hyper-V sur un 2012 et vous avez directement le réplica. Pour mettre en place du réplica, il me faut au moins deux serveurs, soit sur le même site géographique, mais dans deux salles serveurs différentes, soit généralement sur deux sites différents, ici. Mettre en place du réplica impose de l'espace, puisque la machine virtuelle de production continue à tourner, et à intervalles réguliers que nous allons définir, nous allons envoyer les modifications vers un deuxième serveur. Le deuxième serveur aura l'équivalent de la machine initiale. Pour faire du réplica, il me faut bien entendu une connectivité entre mes deux sites, sinon nous n'aurions pas une réplication en temps réel. Pour mettre en place le réplica va s'appuyer sur les protocoles HTTP ou HTTPS. Ça veut dire qu'il me faut, au sein de mes firewalls, autoriser le réplica Hyper-V. Dernier composant, ici, je peux mettre en place du réplica sur des serveurs qui n'appartiennent pas au même domaine éventuellement. Dans ce cas-là, il me faudra un certificat X509 V3 pour l'authentification. Sinon, si mes serveurs appartiennent à la même forêt, je n'ai besoin de rien faire. C'est automatiquement pris en charge. La mise en place du réplica Hyper-V ici, encore une fois, c'est une solution de reprise sur incident et non pas de haute disponibilité. Le but, c'est une machine virtuelle en production soit répliquée par un Layer 1, par exemple, auprès d'un site de réplica avec une machine virtuelle de reprise. Si je mets en place du réplica Hyper-V, si j'ai une défaillance, je dois initier la récupération sur le site de récupération. Il faut savoir que quand je mets en place un réplica Hyper-V, rien n'est automatique. C'est à moi de remonter la machine virtuelle de réplica. Donc ici, on a une intervention manuelle. Si éventuellement je veux réussir à automatiser, ben je vais prendre un des outils d'automatisation que nous avons chez Microsoft. On va prendre par exemple l'outil Orchestrator. Dans l'outil Orchestrator, on peut trouver des runbooks et des runbooks en fait qui vont gérer le réplica, qui vont analyser le serveur de réplica original et s'il a un problème, monter la machine virtuelle en fait de reprise automatiquement. Au niveau du réplica, différents types d'infrastructures. On peut faire un réplica d'un serveur Hyper-V vers un autre serveur Hyper-V en mode autonome, d'un cluster vers un cluster, d'un cluster vers un serveur autonome, d'un serveur autonome vers un cluster. En fait, ici, l'infrastructure, c'est moi qui vais décider. La mise en place du réplica, ici, petite différence avec le cluster de basculement. Le cluster de basculement, ici, c'est de la haute disponibilité sur un site, encore une fois, alors que la réplication, ici, nous sommes de la récupération sur incident. Autant le cluster avec basculement va se mettre en place immédiatement, avec un mini arrêt de service quand même, puisque mon serveur tombe en panne, pourquoi pas, sauf si on a un live migration au préalable. Autant sur du réplica, c'est moi qui vais devoir intervenir. Comment fonctionne le réplica? J'ai une machine virtuelle originale sur laquelle j'ai activé la réplication. Sur le site de récupération, j'ai dit je veux répliquer cette machine virtuelle, donc il y a une copie de machine virtuelle qui est générée. Puis à intervalles réguliers, le fichier de log de la machine virtuelle source est transféré sur le site de récupération. On va appliquer en fait ce log. Après, la machine virtuelle en fait qui est en face, à moi de décider à quel moment je vais la remonter. Quand mettre en place un réplica? Le réplica Hyper-V est, comme le live migration, est à paramétrer. Par défaut, la réplication n'est pas activée. Donc je vais configurer la réplication ici. Dans la réplication, je vais demander d'utiliser un protocole HTTP ou HTTPS et je vais autoriser la réplication à partir de serveurs spécifiques. Donc même chose ici, hein, j'ai autorisé à partir de toutes les machines dans mon composant. Donc j'ai fait le paramétrage sur mes deux serveurs ici, aussi bien sur mon 2012R2 que sur mon serveur 2. Sur mes deux serveurs, j'ai activé également au niveau du firewall l'exception en fait de réplication Hyper-V. Je vais prendre une machine virtuelle, par exemple MVAG1, que j'ai déplacée tout à l'heure. Cette machine virtuelle, je veux la répliquer. Je vais pouvoir activer la réplication. Suivant, le serveur de réplication sera le serveur 2. Suivant, le système vérifie que ce serveur 2 est bien un paramétré au niveau réplication. J'ai mon protocole d'authentification, la compression des données transmises sur le réseau. Que va-t-on répliquer? À quel moment? En Hyper-V 2012, la réplication avait lieu toutes les 5 minutes. En 2012R2, la réplication peut avoir lieu toutes les 30 secondes, toutes les 5 minutes ou tous les quarts d'heure, en fonction de mes besoins, ici. Plus je mets une réplication rapide, plus, bien entendu, j'aurai de charge réseau. Quand je fais la réplication, ici, j'ai la possibilité de dire, est-ce que je ne conserve que le dernier point de récupération, la dernière chose qui a été envoyée, ou est-ce qu'éventuellement, je veux pouvoir remonter un peu en amont. Donc dans ce cas-là, je peux créer des points de récupération supplémentaires. Un point de récupération supplémentaire par heure. Donc je vais en conserver qu'un seul. Suivant. Comment va-t-on initier la copie initiale? Par le réseau, à l'aide d'un support externe, ou éventuellement sur mon deuxième serveur, j'ai déjà une machine virtuelle qui est l'équivalent de la machine virtuelle que je vais répliquer. Donc je vais envoyer une copie initiale au travers de mon réseau. Donc j'ai mon activation de réplication. Hop. Si je regarde ici sur mon composant, je vois bien que j'ai un envoi de réplica initiale. Sur mon deuxième serveur ici, j'ai bien MVAG2 qui reçoit les modifications. Donc je vais laisser ici terminer hein, mes deux infrastructures. Puisqu'en plus ces deux passent sur le même réseau. La machine virtuelle mise en place sur le deuxième serveur, le site de réplica, n'est pas démarrable. cette machine virtuelle n'est démarrable que si j'active en fait le basculement de réplication. Ici. Donc on voit que la réplication est en cours de route hein, et il n'y a aucun problème de fonctionnement ici. Donc on voit ici que avec un serveur Hyper-V tout seul, bah, mes machines virtuelles, je peux faire énormément de gestion. De la gestion ici, hein, sans être amené à utiliser des produits tiers. Pour gérer ces machines virtuelles, j'ai la possibilité de m'appuyer sur un des outils de la gamme System Center. Un des outils de la gamme System Center ici, l'outil VMM, Virtual Machine Manager. Cet outil, bah, c'est l'outil qui va me permettre de gérer de façon centralisée mes différents serveurs Hyper-V. Non seulement qui va me permettre de gérer les machines virtuelles, mais qui va me permettre de gérer la configuration, comme par exemple gérer l'équivalent des switches distribués, ce qu'on appelle nous des switches logiques, mais également qui va me permettre, lorsque je vais créer une machine virtuelle depuis ce produit, d'avoir un mécanisme qu'on appelle de placement intelligent. Moi, à l'heure actuelle, quand je crée une machine virtuelle, je me positionne sur la bonne console et je crée ma machine virtuelle. Dans VMM, le système, en fait, je demanderai à créer une machine virtuelle et il me proposera le serveur le plus à même de recevoir la machine virtuelle. Avec ici, dans l'infrastructure également, bah, toute une série de composants comme l'optimisation dynamique. Exemple, hein, j'ai un cluster Hyper-V avec 2, 3, 4, 5 nœuds. Ici, le système va pouvoir faire un déplacement automatique de machine virtuelle d'un nœud vers l'autre. Automatique, ou également que je ferai manuellement grâce à un live migration. L'avantage de VMM également, c'est qu'on va pouvoir gérer une délégation d'administration. Je veux que quelqu'un puisse créer des machines virtuelles en m'appuyant sur des modèles particuliers, je pourrais le faire. Autre avantage de VMM par rapport à la console Hyper-V toute seule, bah dans Hyper-V, si je veux créer une machine virtuelle, soit je copie un VHD préparé, soit je fais une installation totale, mais ça va me prendre un temps assez long. Dans VMM, pour créer des machines virtuelles, je vais avoir la possibilité d'utiliser des modèles. Cette création ici va être plus rapide parce que nous avons des composants qui vont me permettre d'automatiser l'installation. Quand je crée une machine virtuelle depuis VMM, soit je pourrais m'appuyer sur un VHD que j'ai mis en place dans ce qu'on appelle une librairie, soit éventuellement, encore une fois, je m'appuie sur un modèle. Modèle au niveau VMM, deux types de modèles de machine virtuelle, deux types de modèles plutôt. Nous avons un modèle de machine virtuelle. Un modèle de machine virtuelle, en fait, ici, c'est un modèle dans lequel on va dire, je vais m'appuyer sur tel disque dur, tu feras telle configuration au niveau de l'OS, tu auras telle configuration au niveau hardware, au niveau de la machine virtuelle. Un modèle de machine virtuelle ne peut déployer qu'une seule machine virtuelle à la fois. Une machine virtuelle déployée grâce à un modèle de machine virtuelle, si je modifie le modèle, il n'y a pas affectation des modifications à la machine déjà déployée. Une fois que la machine est déployée, il n'y a plus de lien avec le modèle. Le modèle de machine virtuelle, à terme, ce n'est plus ce que nous utiliserons. Parce qu'éventuellement, je veux aller plus loin en disant, bah, moi ce que je veux, ce n'est pas déployer une machine, mais pouvoir déployer en simultané trois configurations, avec un contrôleur domaine, un serveur SQL, un serveur web par exemple. Si je prends les modèles machine virtuelle, je dois déployer trois machines à la main, puis finaliser mes configurations. La solution au niveau de mon déploiement ici, ça va être de créer des modèles de service. Un modèle de service, c'est l'équivalent d'un modèle de machine virtuelle, sauf que dans ce cas, nous pouvons créer des environnements multitiers. Je peux, en déployant un modèle de service, déployer les trois VM côte à côte en simultané. Autre avantage d'un modèle de service, j'ai créé un modèle de service qui déploie une VM. Sauf que dans cette machine virtuelle, j'ai oublié de mettre en place un service. Je modifie le modèle de service et je pourrais mettre à jour les machines virtuelles déployées grâce à ce modèle de service. En travaillant en fait après coup avec les outils, pour créer un modèle de service correctement, il faut au préalable avoir créé un modèle d'ordinateur. Parce que dans le modèle de service, je vais être amené à écrire toute une série d'informations. Comment peut-on réaliser ça, justement, dans l'infrastructure ? Donc, nous avons un serveur VMM ici. Mon serveur VMM, en fait, ici, qui va me permettre de gérer différents serveurs. Alors, dans mon cas, je n'ai qu'un seul serveur Hyper-V qui est administré pour l'instant. Je n'ai pas ajouté mon deuxième serveur Hyper-V. Au sein de ce serveur Hyper-V, dans la partie ordinateur virtuel, je vois toutes les machines virtuelles, en fait, hébergées sur mon serveur. Je veux, au sein de mon système, ici, dire, bah, tiens, j'aimerais créer une nouvelle machine virtuelle. je vais pouvoir créer un ordinateur virtuel directement. Quand je crée un ordinateur virtuel, il me propose de créer un ordinateur virtuel à partir de machines existantes, donc de faire un clone avec l'équivalent de l'exportation, exportation-importation. Je peux appuyer sur un modèle d'ordinateur, je peux appuyer sur un distributeur virtuel. Quand je parcours, ici, il me propose tous les fichiers qui sont stockés dans ma librairie. Déployer une machine virtuelle avec VMM impose d'avoir une librairie, donc un serveur avec un partage, qui ait toutes les sources d'installation, que ce soit des VHD, des VHDX ou des fichiers ISO. Donc je retrouve ici, par exemple, mon 2012 R2 Update 1 en data center. Je pourrais créer ma machine virtuelle. Et cette machine virtuelle ici, je vais pouvoir dire, je veux générer une machine virtuelle de génération 1 ou génération 2, avec l'association d'un nom et toute la configuration matérielle que je vais pouvoir apporter. Ici, c'est je vais tout écrire à la main. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir un modèle qui me remplisse toutes les informations. J'aimerais qu'un utilisateur n'ait pas à tout sélectionner. Pour ça, je vais pouvoir créer dans la librairie, ici, des modèles. Modèle de machine virtuelle ou modèle de service. Je vais créer un modèle de machine virtuelle. Crée-moi un modèle. Un modèle s'appuie sur un fichier VHD, VHDX. Nom du modèle. Démo modèle. Ce modèle sera de génération 1, génération 2. Suivant. Je vais à cette machine associer toute la configuration matérielle qui va m'intéresser, ici, aussi bien au niveau des VCPU que de la mémoire avec exploitation de la mémoire dynamique, que la connexion à des périphériques IDE, que la connexion à des réseaux également, puisque dans VM, en fait, on aura la possibilité non seulement de créer la machine virtuelle, de l'associer à une carte réseau, mais pourquoi pas de directement lui fournir une adresse IP par VMM. J'ai également au niveau OS, j'ai la possibilité ici de spécifier. Alors, je vais créer de la configuration, voilà. De spécifier quel OS va-t-on déployer. De spécifier un nom pour la machine virtuelle qui sera déployée. Un mot de passe. Mais également de spécifier un numéro de série. Je crée des machines virtuelles que je vais déployer dans un 2012 R2 data center. Ben, je vais pouvoir directement mettre ici les numéros de série de type AVMA. Pourquoi pas. Je vais également, pourquoi pas, pouvoir installer des rôles et des fonctionnalités. Alors, les rôles et fonctionnalités, on peut les sélectionner dans un modèle de machine virtuelle, mais ils ne seront pas déployables dans un modèle de machine virtuelle. Ils ne seront déployés que dans un modèle de service. On pourra potentiellement également, après coup, déployer des applications. Déployer des applications, c'est du modèle de service aussi. Configurer un serveur SQL. Configurer un serveur SQL, c'est également un modèle de service. Je crée mon modèle de machine virtuelle. Alors, je ne vais pas tester le déploiement ici parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose dedans. Mais je pourrais éventuellement vérifier que la machine virtuelle est déployable. J'ai un modèle de machine virtuelle. Alors, encore une fois, j'ai la problématique. Un modèle de machine virtuelle, c'est une VM à la fois. Je veux à partir de ça créer non pas un modèle de machine virtuelle, mais un modèle de service. Dans ce cas-là, nous avons service template et je vais pouvoir demander à créer un modèle de service. La différence ici, c'est qu'un modèle de service pourrait être blanc et mettre les informations dedans. Modèle de service avec une seule machine, deux machines, deux tiers, trois tiers, x tiers. Si je crée une machine virtuelle de type blanc, pourquoi pas, j'ai uniquement mon modèle de service. Je vois apparaître à gauche ici mes modèles de machine virtuelle et je peux dire ce modèle de service déploiera le modèle d'ordinateur démo 1 et déploiera mon deuxième modèle qui est ici. Donc l'intérêt ici, c'est de pouvoir, d'une seule fois, quand je déploierai ce modèle de service, je déploierai ces deux machines en simultané. Après coup, je pourrai générer la connexion à des équipements réseau particuliers. Je peux également rajouter tout ce qui m'intéresse. L'avantage d'un modèle de service par rapport à un modèle d'ordinateur, c'est qu'un modèle de service va déployer multi-tiers et en plus, je peux modifier un modèle de service et appliquer ce modèle de service sur ce qui est déjà déployé. Donc ici, pour gérer en fait ma virtualisation, nous avons soit la partie Hyper-V toute seule, qui me permet d'intervenir assez rapidement, soit si je veux réussir à automatiser au maximum mes machines virtuelles, la gestion de machines virtuelles, la gestion des différents serveurs Hyper-V. Dans ce cas-là, je peux passer par l'outil Virtual Machine Manager. Toute la configuration de notre serveur Hyper-V, la configuration de la migration dynamique et également la configuration de VMM sera vue en profondeur sur le cours modulaire.